Tout le monde peut pas être aussi fort et aussi doué que des chefs professionnels qui cuisinent tous les jours. Par contre, tout le monde est capable de cuisiner. Et moi, je dirais que le geste écologique le plus important en cuisine, c'est de cuisiner. De pas consommer des plats préparés, en tout cas le moins possible. Le plus important, c'est de cuisiner des produits bruts.
Je m'appelle Samia et dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses de la transition écologique. Vous vous dites peut-être qu'on ne peut plus rien faire pour l'environnement, que la situation est désespérée. Dans Oh My Planet, je vous prouve le contraire. Tous les 15 jours, je rencontre des personnes qui se bougent pour le climat, chacune dans son domaine, avec ses armes. Oh My Planet, épisode 1, manger écolo, c'est du gâteau.
Bonjour, on a un rendez-vous avec Chloé, merci.
Un podcast proposé par l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique.
J'arrive.
On pense tous les jours à manger, mais pas forcément à ce qu'on mange. Quels produits on met dans son assiette? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette? Selon le Commissariat général au développement durable, l'alimentation représente 22% de l'empreinte carbone de notre consommation totale, en troisième position après le transport et le logement. Si on veut mieux manger, c'est pas évident de savoir par où commencer. Ceux qui peuvent nous aider, c'est les chefs cuisiniers. Vous allez dire, ok, mais bon, moi j'ai pas le temps de faire de la grande cuisine. Je cuisine vite fait en rentrant du boulot, donc ça va pas m'aider. C'est pour ça que je suis allée voir Chloé Charles, la propriétaire du restaurant Lago à Paris. La cuisine, c'est son quotidien, mais elle a des idées pour tout le monde. J'ai rendez-vous chez Lago, à Paris, dans le 11e arrondissement. À l'intérieur, c'est grand, lumineux. Sur la droite, la cuisine est ouverte sur le restaurant. Deux ou trois personnes sont déjà en train de travailler. Ça déborde d'énergie, mais tout est en ordre. À gauche, il y a juste une grande table en longueur, qui peut accueillir environ 20-25 couverts. C'est là que je vois Chloé. Elle m'explique que Lago n'est pas un restaurant comme les autres. En fait, c'est pas un restaurant.
Les gens qui réservent, généralement, ont quelque chose à fêter. Ils privatisent la totalité de l'espace. Et puis nous, on leur fait à manger. Et ils sont soit assis à table de manière assez classique, soit debout. Comme ça, ils peuvent grignoter plein de petites choses, boire un verre, discuter. Ils font ce qu'ils veulent des lieux pendant tout le temps de la privatisation, donc c'est chouette.
Qu'est-ce que vous allez préparer pour votre repas de demain? C'est quoi qu'on fait là en cuisine?
Pour demain, c'est un cocktail dînatoire, donc il y a 15 trucs différents. Plein de petites pièces cocktail, il y en a que j'aime beaucoup en ce moment. On s'est inspiré du Danish, donc le Danish c'est une viennoiserie qui est à base de pâte à croissant avec généralement une crème pâtissière et un fruit cuit au four. Normalement c'est sucré et on le fait avec des purées de légumes, un fromage frais et plein de légumes croquants, en pickles. Ils ont un pressé de pommes de terre avec des moules en escabèche. Plein de trucs.
Ça met l'eau à la bouche en tout cas. Chloé fait très attention à l'origine des produits qu'elle sert à ses clients.
Ils mangent déjà que des produits frais, enfin parce que nous on fait hyper attention à tous les produits qu'on sélectionne. Beaucoup de végétales, de fruits, de légumes, d'herbes, pas mal de produits de la mer aussi, un petit peu de viande, surtout des volailles, le tout très fortement sourcé. Tous les fruits et légumes, toutes les herbes sont bio, une grande partie de l'épicerie est bio aussi, les poissons évidemment sauvages, et on fait attention à utiliser des variétés qui sont disponibles en suffisamment grande quantité, issues d'une pêche durable, de petits bateaux, la plupart du temps à la ligne, enfin voilà, il y a tout un cahier des charges qu'on s'auto-fixe, qui est assez drastique. Le résumé le plus simplement possible, ça serait manger tout. Il faut varier au maximum, donc je suis pour réduire drastiquement sa consommation de viande. On mange avec parcimonie de temps en temps et une viande de qualité en fait, mais il faut manger un petit peu de fruits et de légumes, un petit peu de fromage, pas mal de légumineuses, poissons, en fait vraiment de tout quoi. Quand on me pose des questions notamment sur le poisson, on me dit mais alors du coup quel poisson il faut consommer? Souvent je dis bah manger les poissons dont vous connaissez pas le nom. Et comme ça, bah, vous saurez que c'est pas des poissons qui sont surpêchés, qui sont surconsommés, et ça permet de varier la pêche et d'arrêter de manger tous du cabillaud, du saumon. Le problème, c'est ça, c'est qu'on mange vraiment tous la même chose, quoi.
Comment vous faites justement pour trouver ces produits-là? Est-ce que c'est facile?
Je trouve ça facile, mais je pense que c'est parce que j'ai 20 ans dans la restauration. Au fur et à mesure, j'ai connu des fournisseurs et des producteurs en qui j'ai confiance et qui ont les mêmes valeurs que les miennes.
Quand Chloé parle de ses valeurs, elle parle d'écologie. Ça commence par l'origine des produits qu'elle utilise.
Quand j'ai commencé la cuisine, on n'avait pas de problème à travailler avec des produits qui venaient de l'autre bout de la planète. Et puis petit à petit, j'ai serré la vis. Et là, j'arrive à un stade où j'ai quasiment que des produits français ou européens. À part sur des épices où déjà c'est compliqué pour moi de me passer d'épices parce que j'aime bien ça. Et contrairement à une mangue où on peut en manger 200 grammes tous les jours, un mélange d'épices qui viennent d'Inde, on va en mettre, je sais pas, 5 grammes pour 15 personnes quoi.
Il n'y a pas moyen de la relier.
Là ça arrête de faire du beurre, mais stylé le beurre aussi, non ?
Ouais.
Il vous en reste plus.
Bah, en fait,
vous
mettez
ça
la mer, quoi, donc
il n'y a pas de
sucre. Ouah. Lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est difficile. Chloé en a conscience. Même dans les restaurants, on fait des erreurs. Alors à la maison, encore plus.
Et du coup, on a vachement culpabilisé, je trouve, les particuliers en leur disant genre « Ah ouais, tu n'utilises pas tes côtes de chou-fleur ?» Et bah du coup, on s'est retrouvé avec des trucs où on proposait aux particuliers de faire des choses qui n'étaient pas très bonnes. Par exemple, le pesto de fans de carottes. Honnêtement, les fans de carottes, c'est pas bon. Et en fait, bon bah c'est ok de les jeter, quoi. Enfin, il y a un moment où on peut pas forcément tout faire. Et donc du coup, on a poussé, je trouve, le grand public à cuisiner des sous-parties de produits sans qu'ils sachent forcément les cuisiner. Et on s'est retrouvé avec plein de gens qui, par acquis de conscience, ont par exemple fait des huiles de verre de poireau. Et sauf qu'en fait, ils se sont retrouvés avec cette huile de verre de poireau, puis ils savaient pas quoi en faire. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont jeté l'huile de verre de poireau, parce qu'à la fin, elle était plus bonne. Donc, au lieu de jeter juste des verres de poireau, ils ont jeté des verres de poireau et de l'huile à la poubelle.
En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de produits par an. L'ADEME a fait les comptes. C'est 16 milliards d'euros qu'on jette à la poubelle tous les ans.
Quand on me demande des tips anti-gaspi, j'essaye plus de pousser les gens à réussir à cuisiner pile poil ce qu'il leur faut par repas, ou alors à cuisiner des plats qu'ils vont pouvoir resservir sur plusieurs jours, ou comment faire pour éviter de jeter qu'ils vont pas forcément le consommer, comment faire pour réussir à vider un frigo avant de partir en vacances. Donc c'est plus des espèces de petits tips comme ça que cuisiner les sous-parties de produits. Et puis une fois que bah, on aura consommé tout ce qu'on a acheté et tout ce qu'on a cuisiné, et ben peut-être qu'on passera ensuite tranquillement vers cuisiner les queues d'asperges, les vers de poireaux et les fans de radis, quoi. Ah, et aussi, Raph, là où il y a les containers là, de tri des déchets, ils viennent de mettre un container déchets alimentaires. Du coup, j'aimerais bien qu'on se mette à trier les biodéchets. Typiquement, ça c'est un truc qu'on n'a pas encore fait, trier les biodéchets, parce qu'on n'est pas un restaurant, donc on n'est pas ouvert tous les jours, donc on a moins de déchets. Et du coup, là-dessus, par exemple, ça serait cool qu'on réussisse à s'améliorer.
Est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé au bout de votre cheminement écologique et est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous pouviez faire en cuisine ?
Non, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours mieux à faire. Mais c'est ça, en fait, qui est passionnant. Et là où je trouve ça facile de s'y mettre, c'est que il faut surtout pas essayer de faire tout de suite. Il faut y aller étape par étape. Et en fait, petit à petit, on peut faire plein de petits gestes qui sont de plus en plus engagés. Et là, certes, je pense que je suis allé à peu près au bout au niveau des produits qu'on utilise, de la manière dont on cuisine. Mais par contre, il y aura toujours des trucs à faire. Et là, je suis en train de vachement m'atteler aussi à l'humain et ce que je suis en train de faire aussi avec Lago en essayant de trouver bah, une nouvelle manière de faire de la restauration, de cumuler une vie professionnelle épanouie et une vie personnelle qui marche aussi. Il y a aussi l'humain qui doit s'inclure dans une démarche engagée. Et donc, j'essaye un peu ça.
Ce qu'il y a de plus original dans la cuisine de Chloé, c'est sa façon d'exploiter les produits qu'elle a sous la main. Elle utilise tout.
J'ai appris à cuisiner comme ça avec un chef qui s'appelle François Pasteau, qui parlait pas du tout d'écologie au départ, mais qui m'a parlé d'économie, tout simplement, d'avoir un restaurant qui soit viable économiquement. Il allait à Rungis choisir lui-même ses produits, au pavillon des producteurs. Il cuisinait la totalité du produit, peu importe que ça soit un chou-fleur, un poisson ou un cochon. Ce qu'il m'a appris, c'est que c'était comme ça qu'il fallait cuisiner, et c'était comme ça qu'on avait un restaurant qui tenait la route. Et donc aujourd'hui, on est le...
Oui. Vous faites quoi là ?
Là, j'essaye de faire du beurre à partir d'une crème montée que j'ai ratée. Voilà.
C'est les aléas du travail en cuisine.
Oui, ouais, on fait avec. On essaye de faire de nécessité vertu. Voilà.
Comme ça, on gâche rien.
C'est ça. Comme ça qu'on a de la tarte tatin. Mais ce dehors, sinon, il va... En fait, il va figer et ça va tout enfermer dedans. Non, mais tu devrais la fouetter encore plus.
Bah, on a essayé de la laisser pas mal, mais... Sinon, je continue.
Non, mais sinon, si tu veux juste récupérer le beurre, là, enfin, pour moi, il faut pas la mettre au frigo, parce que sinon, tu vas enfermer l'eau dans la matière grasse.
Peut-être pas. Hop là. Est-ce que vous avez rencontré des fois des difficultés pour mettre en place des astuces anti-gaspi? Parce que vous ne travaillez pas toute seule, donc il y a des personnes qui ont travaillé peut-être dans d'autres cuisines, qui ont d'autres habitudes?
C'est une très bonne question. Effectivement, je me rends compte que tous les nouveaux qui arrivent entre guillemets dans cette cuisine, ils n'ont pas du tout les réflexes que j'ai. Et il y a des trucs où moi-même, je ne pense pas forcément à le dire. Et en fait, je suis... Ah, t'as acheté... Ah, bon, ok, bon, j'en avais besoin. Et en fait, l'erreur vient même pas forcément de la personne qui a mis le truc à la poubelle. C'est juste parce que d'habitude, ça se met à la poubelle. Mais en fait, ici, on le met pas à la poubelle. Donc, c'est vrai qu'il faut quelques semaines pour comprendre un peu tout ça. Et puis après, j'espère que, par exemple, Mathéo et Asia, qui sont en cuisine avec moi, et Raphaël, ma seconde, qui commencent donc la cuisine, tous les deux avec deux âges complètement différents. Asia a 50 ans et Mathéo a 22 ans. Donc, ils n'ont pas du tout le même âge, mais ils commencent tous les deux la cuisine. J'espère que ça va leur donner des bases, ces réflexes-là, comme moi, j'ai eu des réflexes aussi quand j'ai commencé, quoi.
Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez commencé à penser vraiment à l'écologie en tant que telle, à dire ce nom, en fait ?
Oui, je me rappelle de ce moment-là, c'est quand j'ai pris ma première place de chef dans un restaurant qui s'appelle Fulgurance dans le 11e. C'était le premier resto de résidence de chef, ça n'existait pas du tout comme concept au départ. Et ils m'ont dit, voilà le ticket moyen qu'on a imaginé, donc du coup on va avoir un menu à tant d'euros au maximum. C'est quoi ton concept ? Et donc j'ai mis au point en fait ce que j'ai appelé les entreplats. En gros, j'utilisais, pour sensibiliser aussi les gens à l'écologie, toutes les sous-parties des produits qui étaient à la carte, et je faisais des entreplats en fait avec les sous-parties des légumes, des poissons et des viandes que je récupérais. Et finalement, je sensibilisais aux gens au gaspillage alimentaire en leur disant vous voyez, avec tout ce qu'on aurait habituellement jeté, finalement, on peut faire des vrais plats, quoi.
Cette fois, Mathéo a l'air content de sa crème. Merci, je veux bien. C'est incroyable. J'arrive pas du tout à identifier ce que c'est.
C'est du verjus, c'est du jus de raisin vert. Ouais, c'est ça. En fait, on s'est inspiré de la tarte au citron.
C'est acide.
On fait des tartes au citron même quand c'est pas la saison du citron.
Oui, donc il y a des astuces quand même pour utiliser ce qu'on a à disposition.
Ouais. Toujours des astuces. Puis après, on fait pas aussi, hein. C'est pas grave de pas faire.
Oui, en fait, c'est apprendre à s'en passer, alors qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir tout le temps.
Ouais, mais en même temps, c'est hyper agréable aussi de retrouver la première fraise, la première asperge, le premier petit pois, mais même la première courge, en vrai, quand arrive l'hiver, on est content de retrouver la première soupe de potiron. En vrai, elle est particulièrement bonne. Bon, au mois de mars, on en a ras-le-bol, mais justement, on est content qu'ils partent. Et en vrai, les saisons, c'est quand même bien fichu. C'est quand même assez cool de voir que... En hiver, on a des courges, des racines, des légumes comme ça qui sont faits pour faire des soupes et des gratins parce qu'on a besoin de se réchauffer, et que en plein été, on a des légumes gorgés d'eau comme les tomates, les courgettes et compagnie parce qu'on a besoin de s'hydrater, quoi. Donc c'est en vrai, ça, c'est assez logique de suivre le cycle de la nature, quoi.
J'ai compris un truc, c'est que quand on parle d'alimentation, on parle avant tout de plaisir. On peut l'oublier quand on nous rappelle tout le temps qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on achète, à ce qu'on cuisine, à ce qu'on jette. Mais si Chloé a décidé d'en faire son métier, c'est parce qu'elle aime manger et faire à manger. Chloé a planté une petite graine, utilisé ce que j'ai déjà dans mon frigo, dans mes placards, acheter juste les bonnes quantités, c'est déjà pas mal. Et pas trop compliqué. Pour l'huile de verre de poireau, on verra plus tard. Dans le prochain épisode de Oh My Planet, on part sur un tournage à Lyon. Mathieu Thiel, éco-référent, me parlera d'écologie au cinéma et à la télévision.